Chapitre 3. Disons quelques mots de ce qui se passait à Paris au moment où les illustres fugitifs prenaient leurs chevaux de poste à Bondy. Nous les rejoindrons à Montmirail où la soupente de la voiture, en cassant sur le futur champ de bataille de Napoléon, les forcera de s'arrêter une heure. Cette fois, c'est le journal de Camille Desmoulins qui nous donnera des détails. Il revenait vers 11 heures du club des Jacobins avec Danton, Fréron et d'autres patriotes. Jamais, dit-il, il n'avait vu Paris si tranquille. En effet, pendant tout le chemin, on n'avait pas rencontré une seule patrouille. Il en fit l'observation. « Tu m'y fais penser, » dit celui à qui il s'adressait. « Lis donc ce qu'on m'écrit. » Et il donna à lire à Camille et à Danton une lettre qu'il avait reçue dans la soirée et par laquelle on le prévenait que le roi devait fuir la nuit même. Ils virent la voiture de M. de Lafayette franchissant le guichet du Louvre. Selon toute probabilité, la reine passa à 20 pas d'eux. Ce n'était pas tout. Un perruquier nommé Busby, demeurant rue de Bourbon-Villeneuve, ayant été dans la soirée visiter un de ses amis qui était de garde aux Tuileries, y entendit raconter tout ce que l'on disait de la fuite du roi et de la famille royale. Rentré chez lui, il avait répété à sa femme tous les propos qu'il venait d'entendre. Mais celle-ci avait haussé les épaules. Tous les jours, depuis 3 mois, on répétait la même chose. Le perruquier s'était rangé de la vie de sa femme, puis s'était déshabillé et s'était couché. Mais une fois au lit, sa préoccupation l'avait talonné à ce point que, sans écouter ce que lui disait la perruquière, il s'était rhabillé et, tout courant, s'en était allé réveiller un boulanger de ses amis, sapeur du bataillon des Théatins qui se nommait Huchère. Celui-ci, au lieu de railler ses craintes, comme avait fait Madame Busby, les avait au contraire accueillis dans toutes leurs conséquences. Plus ardent encore que celui qui les lui communiquait, il avait sauté du lit et, sans prendre d'autres vêtements qu'un caleçon, peut-être doit-on faire remonter à ce digne citoyen l'origine de l'épithète de sans-culotte, il était sorti dans la rue et, frappant aux portes, avait réveillé une 20aine de voisins. Puis, les voisins réveillés, le groupe de patriotes, Busby et Huchère en tête, s'achemina vers l'hôtel de M. de Lafayette. Le général venait de rentrer. Dans ces époques de troubles, il fallait, lorsqu'on était maire de Paris ou général de la garde nationale, s'attendre à être dérangé la nuit comme le jour. Lafayette, malgré l'heure avancée, fit donc entrer messieurs Busby et Huchère. Ceux-ci lui exposèrent que le roi devait partir cette nuit même et l'invitèrent à s'opposer à ce départ. Monsieur de Lafayette se mit à rire. Il quittait le roi et la reine. Messieurs Huchère et Busby pouvaient aller se coucher tranquillement, ils répondaient de tout. Mais eux ne se tinrent point pour satisfaits. Ils retournèrent aux Tuileries, où ils n'aperçurent aucun mouvement. La seule chose qui les frappa, ce fut le grand nombre de cochers de fiacres qui buvaient dans les boutiques ambulantes qui se trouvaient au guichet du carrousel. Ils firent alors le tour du palais jusqu'à la porte du manège où se tenait l'assemblée. Mais ils n'aperçurent rien de suspect. Se décidant à suivre le conseil que M. de Lafayette leur avait donné, ils rentrèrent enfin chez eux. M. de Fersen rentra à Paris vers les 6 heures. Il voulut savoir, avant de partir pour Bruxelles, si quelque chose de la fuite du roi avait transpiré. Il alla d'abord à l'hôtel de ville, puis à la mairie, où logeait Bailly, puis à l'hôtel de M. de Lafayette. Tout était parfaitement tranquille. En conséquence, M. de Fersen remonta en voiture et prit la route de Bruxelles. À la même heure, la soupente de la berline royale se brisait, comme nous l'avons dit, aux portes de Montmirail. Il fallut s'arrêter dans la ville et y perdre 2 heures. Puis vint une côte que le roi voulut monter à pied et l'on perdit encore une demi-heure. 4h30 sonnaient à la cathédrale lorsque la berline entra dans Châlons et s'arrêta devant la poste, située à cette époque, comme nous l'avons dit, à l'extrémité de la rue Saint-Jacques. Monsieur de Valory s'approcha de la voiture. « François, tout va bien !» lui dit la reine. « Il me semble que si nous devions être arrêtés, nous le serions déjà. » Pour parler à M. de Valory, la reine s'était montrée. Le roi se montra à son tour. Le maître de poste, Oudet, le reconnut. Un des spectateurs que la curiosité avait attiré le reconnut aussi. Le maître de poste vit ce dernier s'éloigner et eut peur pour le roi. « Sire, dit-il à demi-voix, ne vous montrez pas ainsi ou vous vous perdrez. » Puis, s'adressant au postillon, « Eh bien, paresseux, reprit-il, est-ce ainsi que l'on sert de braves voyageurs qui paient 30 sous de guide ?» Et il se mit lui-même à l'œuvre, aidant les postillons. La voiture était attelée avant qu'on n'eût rien vu paraître. « En route !» crie le maître de poste. Le premier postillon veut enlever ses chevaux. Les deux chevaux s'abattent. Sous les coups de fouet, ils se relèvent. On veut lancer la voiture. Les deux chevaux du second postillon s'abattent à leur tour. On tire le postillon de dessous le porteur, où il avait la cuisse engagée. Il y laisse sa botte forte. Les chevaux se relèvent. Le postillon repasse sa botte et se remet en selle. La voiture part. Les voyageurs respirent. Seulement, comme l'avis du maître de poste fait craindre un danger, au lieu de courir en avant, M. de Valoury galope à côté de la voiture. Ses chevaux s'abattant les uns après les autres, sans aucune raison de s'abattre, semblent à la reine un mauvais présage. Cependant, cette fois encore, on échappe. L'homme qui assistait à l'arrivée de la berline a couru chez le maire. Mais le maire est royaliste. Le dénonciateur a beau lui soutenir que c'est le roi et toute la famille royale, il nie que cela puisse être, et quand, pressé dans ses derniers retranchements, il se rend enfin rue Saint-Jacques, la voiture est partie depuis 5 minutes. En sortant des portes de la ville et en voyant l'ardeur avec laquelle les postillons mènent leurs chevaux, la reine et Madame Élisabeth disent d'un seul cri « Nous sommes sauvés !» Mais presque aussitôt, un homme qui sort on ne sait d'où passe à cheval devant la portière et crie « Vos mesures sont mal prises, vous serez arrêtés !» On ne sut jamais quel était cet homme. Par bonheur, on n'était plus qu'à 4 lieues de pont de Sommevel, où M. de Choiseul devait attendre avec ses 40 hussards. Peut-être eût-on dû envoyer M. de Valoury le prévenir, lui et ses hommes, à fond de train. Mais le dernier avertissement a redoublé les angoisses de la reine et elle tient à garder tous ses défenseurs. On presse les postillons. En 1 heure, on fait les 4 lieues. On arrive à Pont-de-Sommevel, hameau composé d'une ferme et d'une ou deux maisons. On plonge avec anxiété les yeux à gauche sous le bois qui ombrage la ferme, à droite sous les arbres qui suivent le cours de la rivière en faisant un rideau de verdure. Ni M. de Choiseul, ni M. de Goguelin, ni aucun des 40 hommes ne sont là. Qu'est-il donc arrivé ? Commençons par M. de Choiseul, que nous avons laissé entraînant Léonard au grand trot de son cheval vers la barrière de la petite villette. On se rappelle le désespoir de Léonard. Ce qui le console un peu, c'est que M. de Choiseul lui a dit qu'il emmenait à 2 ou 3 lieues seulement. Aussi, au moment où le cabriolet s'arrête à la poste de Bondy, « Enfin !» dit Léonard, s'apprêtant à descendre. « Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, monsieur le comte ?»«
Oui, au relais, » répond M. de Choiseul.
« Comment, au relais ? Nous ne sommes point arrivés ?»«
Pas encore. »«
Mais, monsieur, où allons-nous donc ?»«
Bah, » dit M. de Choiseul, « pourvu que vous soyez de retour demain matin, que vous importe, mon cher Léonard ?»«
Oh, le fait est, » répond Léonard, « que, pourvu que je sois aux Tuileries à 10 heures pour coiffer la reine, c'est tout ce qu'il faut. »«
Alors tranquillisez-vous, mon cher Léonard, tout va bien. » On relaya en un instant. Les chevaux étaient préparés. Le domestique de M. de Choiseul allait en courrier devant lui. Tout marcha bien jusqu'à Clay. Mais à Clay, quand l'infortuné coiffeur vit qu'on mettait un nouvel attelage à la voiture et qu'il n'était aucunement question d'arrêter,
« Ah ça, monsieur le comte » s'écria-t-il. « Nous allons donc au bout du monde ?»«
Écoutez, Léonard, » répondit M. de Choiseul, prenant un ton sérieux. « Il est temps, en effet, que vous sachiez où nous allons. Nous allons à la frontière. » Léonard devint blanc comme sa cravate. Il appuya ses mains sur ses 2 genoux et regarda M. de Choiseul d'un air terrifié.
« Ah, la frontière ?» balbutia-t-il.
« Oui ?» Je dois trouver là, à mon régiment, une lettre de la plus haute importance pour la reine. Ne pouvant la lui remettre moi-même, il me fallait quelqu'un de sûr pour la lui envoyer. J'ai prié Sa Majesté de m'indiquer ce quelqu'un et elle vous a choisi comme l'homme en qui elle avait le plus de confiance.
Ah, monsieur le comte, la reine me fait certes un grand honneur, mais comment reviendrai-je? Voyez, je suis en escarpin, en bas blanc, en culotte de soie. Je n'ai ni linge ni argent.
Bon, dit M. de Choiseul, vous oubliez que vous avez sur vous 3 ou 4 millions de diamants.
Oui, mais ces diamants sont à la reine, monsieur le comte, et je n'en distrairai pas, dussé-je mourir de faim, la plus petite rose, la moindre étincelle.
Ne vous inquiétez pas, mon cher ami, dit M. de Choiseul, prenant pitié du pauvre diable. J'ai dans ma voiture bottes, habits, linge, argent. Rien ne vous manquera.
Sans doute, avec vous, rien ne me manquera, monsieur le comte. Mais mon pauvre frère, dont j'ai pris le chapeau et la redingote. Mais cette pauvre madame de Lage, qui n'est bien coiffée que par moi. Mon Dieu, comment tout cela finira-t-il?
Et Léonard leva les bras au ciel avec un geste de désespoir. Monsieur de Choiseul comprit que c'était une tâche au-dessus de ses forces de consoler Léonard. Il le laissa se consoler tout seul. On soupa à Montmirail et Monsieur de Choiseul annonça à Léonard qu'il avait une heure ou deux pour se jeter tout habillé sur son lit et même se déshabiller s'il préférait cela. À 3 heures du matin, une voiture s'arrêta devant l'hôtel de la Poste. En un instant, Monsieur de Choiseul fut sur le seuil de la porte. Deux hommes, habillés en gardes nationaux, demandaient des chevaux avec instance. La voiture de M. de Choiseul était attelée.
« Y a-t-il des chevaux pour la voiture des nouveaux venus ? » demanda-t-il au postillon.
« Oui, Votre Excellence. »«
Eh bien, laissez passer cette voiture devant, mais suivez-la sans la perdre de vue un seul instant. »
Puis, s'adressant au garçon de l'hôtel, « Faites descendre mon compagnon de voyage, » dit-il. Léonard descendit, tout abruti de sommeil. En ce moment, les deux gardes nationaux montaient en voiture, partaient et prenaient la route de Châlons.
« Allons, dit M. de Choiseul, il faut partir. »
Et poussant Léonard dans la voiture,
« Postillon, poursuivit-il, ne vous écartez pas de ces hommes de plus de 6 pas. »
Puis, montant à son tour, il prit place dans le cabriolet à côté de Léonard. Le cabriolet partit du même train que la voiture qui le précédait. À peine dans le cabriolet, M. de Choiseul examina avec le plus grand soin les pistolets placés dans les poches, en souleva les batteries, en redouvela les amorces et fit jouer le chien. Léonard le regardait faire avec une stupéfaction qui tenait de la terreur. On marcha ainsi pendant 1 lieue et demie. Mais entre Éloges et Chaintrise, le cabriolet prit une route de traverse. Les deux gardes nationaux, auxquels M. de Choiseul croyait des intentions régicides, étaient deux braves citoyens qui allaient à leurs affaires. M. de Choiseul continua sa route. Vers 10 heures du matin, il traversait Châlons. À 11 heures, il arrivait à Pont-de-Sommevel. Il s'informe. Les hussards n'étaient pas encore arrivés. Il s'arrête à la maison de poste, descend, demande une chambre et revêt son uniforme. Léonard assistait à tous ces préparatifs qui redoublaient son inquiétude. M. de Choiseul eut pitié de lui. « Mon cher Léonard, lui dit-il, il est temps que vous sachiez toute la vérité. »«
Comment la vérité ? » demanda Léonard. « Mais je ne la sais pas donc, la vérité ?»«
Vous en savez une partie. Je vais vous apprendre le reste. Vous êtes dévoué à vos maîtres, n'est-ce pas, mon cher Léonard ?»
« À la vie et à la mort, monsieur le comte !»«
Eh bien, dans 2 heures, ils seront ici. Dans 2 heures, ils seront sauvés. » Le pauvre Léonard se mit à pleurer à chaudes larmes. Seulement, c'était de joie.
« Dans 2 heures, ici !» s'écria-t-il enfin. « En êtes-vous bien sûr ?»«
Oui, ils ont dû partir des Tuileries à 11 heures ou 11h30 du soir. Ils ont dû être à midi à Châlons. » Mettons 1 heure ou 1 heure et demie pour faire les 4 lieues de Châlons ici, ils seront donc ici à 1 heure au plus tard. J'attends un détachement de hussards que doit m'amener M. de Goguelat. M. de Choiseul mit la tête à la fenêtre.
Eh, tenez, les voilà qui sortent de Tillois.
Et en effet, les hussards paraissaient en tête du village.
Allons, allons, tout va bien, ajouta M. de Choiseul.
Il fit avec son chapeau des signes par la fenêtre. Un cavalier se mit au galop. Monsieur de Choiseul descendit. Les deux jeunes gens se rejoignirent au milieu de la grande route. Le cavalier, qui était monsieur de Goguelin, remit à monsieur de Choiseul un paquet de la part de monsieur de Bouillet. Ce paquet renfermait 6 blancs-seins et un double de l'ordre formel donné par le roi à tous les officiers de l'armée, quel que fût leur grade et leur ancienneté, d'obéir à monsieur de Choiseul. Les hussards arrivèrent. Monsieur de Choiseul leur ordonna de mettre les chevaux au piquet et fit distribuer du pain et du vin. Les nouvelles qu'apportait monsieur de Goguelin étaient mauvaises. Partout sur son chemin, il avait trouvé la plus grande effervescence. Les bruits du départ du roi, qui circulaient depuis plus d'un an, s'étaient répandus de Paris dans la province et les détachements des différentes armes qui stationnaient ou qu'on avait vu passer à Dun, à Varennes, à Clermont et à Sainte-Menou avaient fait naître des soupçons. Le tocsin avait même sonné dans une commune voisine de la route. Monsieur de Choiseul avait fait préparer à dîner pour lui et monsieur de Goguelin. Les deux jeunes gens se mirent à table, laissant le détachement sous le commandement de monsieur Boudet. Au bout d'une demi-heure, monsieur de Choiseul crut entendre quelques bruits à la porte. Il sortit. Les paysans des villages environnants commençaient à s'amasser autour des hussards. D'où sortaient ces paysans dans un pays qui, à première vue, semble presque désert? De Notre-Dame de l'Épine, de Tillois, de Mérimée, de Saint-Julien, de Saint-Martin, ces trois villages qu'on aperçoit à peine, mais qui, perdus dans les arbres qui bordent la Velle, seule verdure de ces grandes plaines nues, s'étendent sur une longueur de près de 2 lieues. Puis, chose fatale, le hasard avait fait que, quelques jours auparavant, les paysans d'une terre située près de Pont-de-Somme-Velle et appartenant à Madame Delbeuf avaient refusé le paiement de droits non rachetables, sur quoi on les avait menacés d'exécution militaire. Mais la fédération de 1790 avait fait de la France une seule famille et les paysans des villages environnants avaient promis main forte aux paysans de Madame Delbeuf si un seul soldat arrivait aux environs. Or, il en paraissait 40. En les voyant, les paysans de Madame Delbeuf crurent qu'ils venaient avec des intentions hostiles contre eux. Des messagers furent donc expédiés dans tous les villages voisins pour sommer les confédérés de tenir leurs promesses. Les plus proches arrivèrent les premiers, et voilà comment M. de Choiseul, en sortant de table, trouvait déjà un certain nombre de paysans amassés autour des hussards. Il crut que c'était la curiosité qui les attirait, et, sans trop s'inquiéter d'eux, gagna l'endroit le plus élevé de la route qui trace une ligne parfaitement droite à travers la plaine de Châlons à Sainte-Menou. Au plus loin que la vue pouvait s'étendre, elle s'étendait sur une route solitaire. On ne voyait venir ni courrier ni voiture. 1 heure s'écoula. 2 heures, 3 heures, 4 heures s'écoulèrent. Les fugitifs devaient être à 1 heure à Pont-de-Somme-Velle, et le temps qu'ils avaient perdu en route faisait qu'à 4 heures et demie seulement, comme nous l'avons dit, ils entraient à Châlons. Monsieur de Choiseul était inquiet. Léonard était désespéré. Vers 3 heures, le nombre des paysans augmenta. Leurs démonstrations devinrent plus hostiles. Le tocsin commença de sonner. Les hussards étaient un des corps les plus détestés de l'armée et passaient pour d'affreux pillards. Les paysans les provoquaient par toutes sortes de railleries et même de menaces et venaient chanter jusque sous leur nez cette chanson, ou plutôt ce refrain, improvisé pour l'occasion. « Les hussards sont des gueux, mais nous nous moquons d'eux. » Puis d'autres personnes, mieux informées, commencèrent à dire tout bas que les hussards étaient là, non point pour exécuter les paysans de Madame Delbeuf, mais pour attendre le roi et la reine. Ceci était une affaire bien autrement grave. Vers 4 heures et demie, monsieur de Choiseul et ses hussards étaient tellement entourés que les trois officiers, monsieur de Choiseul, monsieur de Goguelin et monsieur Boudet, se réunirent en conseil pour savoir ce qu'il y avait à faire. L'avis unanime fut qu'on ne pouvait tenir plus longtemps. Les paysans étaient réunis au nombre de plus de 300. Quelques-uns étaient armés. Si, par malheur, le roi et la reine arrivaient en ce moment, 40 hommes se faisant tuer depuis le premier jusqu'au dernier étaient insuffisants pour les protéger. Monsieur de Choiseul relit ses ordres. Faire en sorte que la voiture du roi continue sa marche sans obstacle. Or, sa présence et celle de ses 40 hommes deviennent un obstacle au lieu d'être une protection. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est donc de partir. Mais pour partir, il faut un prétexte. Monsieur de Choiseul, au milieu de 500 ou 600 curieux qui l'entourent, avise le maître de poste. « Monsieur, lui dit-il, nous sommes ici pour escorter un trésor. Ce trésor n'arrive pas. Avez-vous connaissance de quelque envoi d'argent expédié ces jours-ci à Metz ?»«
Ce matin, répond le maître de poste, la diligence a porté 100 000 écus. Elle était escortée de 2 gendarmes. »
Le maître de poste aurait eu le mot qu'il n'aurait pas mieux répondu.
« C'est moi et Robin qui étions d'escorte, » ajouta un gendarme perdu parmi les curieux.
Alors Monsieur de Choiseul se tournant vers Monsieur de Goguelat.
« Monsieur, dit-il, le ministère aura préféré le mode d'envoi ordinaire. Le passage des 100 000 écus en notre présence inutile. Je crois donc que nous pouvons nous retirer. Trompette, sonnez le boute-sel. »
Le trompette obéit. En un instant, les hussards, qui ne demandaient pas mieux que de partir, furent à cheval.
« Allons, hussards, dit Monsieur de Choiseul, rompez 4 par 4 et au pas. »
Et il quitta, lui et ses 40 hommes, pont de Sommevel, au moment où sa montre marquait 5 heures. Au-delà de Tilloy, le détachement prit la traverse pour éviter Sainte-Menou. Monsieur de Goguelat, qui avait traversé la ville dans la matinée, l'avait trouvé dans la plus grande agitation. Voilà comment il n'y avait plus d'escorte à Pont-de-Sommevel quand le roi y arriva. Mais s'il n'y avait plus d'escorte, il n'y avait plus de paysans. La route était libre. Le roi relaya sans difficulté et partit pour Sainte-Menou. Cependant, en voyant la place solitaire, la reine avait dit ces mots prophétiques : «
Nous sommes perdus !»